Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Alors, évidemment, aujourd'hui à l'émission, on va parler de toute cette controverse à l'Université d'Ottawa où la direction de l'université, le recteur et tout ça, trouve rien de mieux que de taper sur les doigts d'une prof qui a utilisé un mot tabou dans sa classe. Ben, ce mot tabou-là, au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça. On l'utilisait, on trouvait même ça drôle. Je veux juste vous rappeler quelque chose qui s'est passé à un gala de la disque en 1992. Ça impliquait François Pérusse et Normand Brathwaite. Voici l'extrait d'un documentaire, d'ailleurs, où François Pérusse et Normand Brathwaite reviennent sur cette controverse de 1992.
Je suis rendu au gala extrêmement nerveux parce que Normand Brathwaite m'avait demandé de faire un numéro avec lui sur scène en plus. Alors, non seulement étais-je en nomination, mais en plus, il fallait faire une performance qui était nègre-noir, chanson parodie de la reprise de Marie-Carmen de la chanson de Barbara.
Surgit un nègre noir.
François a pris nègre noir et a changé ça, puis moi, j'ai fait une petite version sociopolitique de ça où j'étais comme un peu une espèce de pédophile qui courait après des enfants puis qui se fiffe avec les polices, t'sais. Et c'est drôle parce que François aime pas brasser de la merde. Il fait des affaires, mais il aime pas ça brasser de la merde. Puis ça, ça avait brassé beaucoup de merde. Mais à tous les niveaux, là, je veux dire, la communauté noire, la communauté gay, les danseuses de ballet, c'est tout le monde. Mais c'est une des affaires les plus drôles, je pense, qu'on a faites ensemble.
Alors, Normand Brathwaite qui dit que c'est une des affaires les plus drôles qu'il a faites dans sa vie en 1992. Et vous vous souviendrez peut-être aussi en 2018 au Gala de la Disque, c'était la 40e édition et Louis-José Houde, donc, avait présenté ce qu'il considérait, lui, comme certains des meilleurs moments du Gala de la Disque, en tout cas des moments qu'il avait marqué. Et on avait ressorti à ce moment-là un extrait aussi de Normand Brathwaite avec François Pérusse qui chantait « Nègre noir » au lieu de « L'aigle noir ». Ben, pouvez-vous croire, en 2018, là, les gens dans la salle étaient outrés. Mais on est rendu là. En 2020, c'est rendu qu'il y a un prof d'université qui perd son emploi, qui est suspendu pendant 2 semaines pour avoir utilisé ce mot-là. Vraiment, c'est absolument hallucinant. La trajectoire qu'on a effectuée au cours des 20 dernières années de rétrécissement de la pensée, de rétrécissement de la liberté d'expression, de rétrécissement de la liberté créatrice. Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un grand « ben voyons donc ».
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Le monde est encore ébranlé par l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, oui, qui a été égorgé, décapité en France vendredi dernier par un terroriste islamiste. Il y a eu des manifestations un petit peu partout en France dimanche par solidarité. Mais hier, le gouvernement français a décidé de mettre le point sur la table et d'adopter toutes sortes de mesures pour combattre l'islamisme. On va en parler avec notre collègue Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et collaborateur à Cube Radio. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
C'est assez spectaculaire de voir les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement français. Est-ce qu'on peut passer un petit peu en revue la réaction du gouvernement Macron à l'assassinat de Samuel Paty, Christian?
Oui, on peut passer ça en revue, c'est-à-dire que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il faut savoir que l'attentat survient 2 semaines après qu'Emmanuel Macron ait prononcé un discours sur ce qu'il appelait le séparatisme islamiste. Mm-hmm. Hein, ça faisait 3 ans que les Français attendaient que Macron se prononce sur ces questions-là. On avait attendu un discours sur la laïcité pendant très longtemps, et finalement, il est intervenu avec des mots, en tout cas, qui ont frappé quand même les Français, qui ont été très, très largement approuvés dans la population. On pourrait dire que même la plupart des gens se disaient « il était temps ». Donc, survient évidemment l'attentat, et là, bon, on réunit ce qu'on appelle ici le Conseil de défense, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, le premier ministre, le président, un certain nombre de ministres importants, pour sortir un certain nombre de mesures. Bon, parmi ces mesures, je vous dirais que, bon, il y en a plusieurs. Évidemment, on va resserrer les contrôles à l'école, où on sait que il n'y a pas qu'Emmanuel Paty qui a subi des pressions ou qui a subi une cabale sur Internet. C'est des choses qui sont assez courantes et qui arrivent assez souvent. On parle de contrôler les associations, c'est-à-dire les associations, vous savez, les banlieues sont pleines d'associations, et souvent on parle d'une association pour aider les maires, d'une association culturelle qui sont très souvent infiltrées par des islamistes. Je me souviens très bien quand j'avais fait un grand reportage il y a plusieurs années à Molenbeek. La première chose que après les attentats de Molenbeek qu'a fait le gouvernement belge, c'est de contrôler les associations toutes une après l'autre. Et on a, je pense que sur 300 associations, on en a fermé à peu près une centaine parce qu'on s'est aperçu que ces associations-là avaient plutôt des motifs religieux quand elles n'étaient pas complètement bidons. C'est-à-dire ce sont souvent des associations qui servent à financer des organisations islamistes ou qui servent à endoctriner souvent les enfants ou la population.
C'est des coquilles vides.
Donc,
ce sont des coquilles vides.
Oui, exactement. Ce sont souvent des coquilles vides ou, comme je vous dis, c'est un prétexte culturel alors que le fond est cultuel, hein, et qui concerne le culte. Donc, des associations, ça, c'est courant, mais ça va être un travail énorme. Hein. Je me souviens très bien qu'à Bruxelles, à Molenbeek, ça avait pris un an et demi pour faire le tour des associations, les rencontrer, les interviewer, tout ça. Donc, écoutez, si on fait ça, je pense qu'on aura fait quelque chose de très important. Bon, le ministre de l'Intérieur annonce qu'il va essayer d'expulser à peu près 250 personnes qui sont identifiées comme très radicalisées dans les fichiers. Ça, c'est... Ça, je vous dirais que les Français sont un peu plus sceptiques là-dessus. Ça fait des années qu'on parle de ça. C'est demandé depuis extrêmement longtemps, mais ça rencontre des difficultés considérables. Hein. Il faut être déterminé pour faire ça, et il faut être déterminé à ne pas se faire aimer. Surtout. Oui. Donc, oui, parce que souvent, les pays refusent le renvoi de ces gens-là. Souvent, ils ont la double nationalité. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de recours légaux qui existent. Hein. On peut aller d'appel en appel. En appel.
Ça va pas être simple.
D'ailleurs, oui. D'ailleurs, le terroriste qui a assassiné Samuel Paty était un Tchétchène, un Russe d'origine Tchétchène qui est rentré en France avec sa famille, et l'organisme responsable des réfugiés avait donné un avis défavorable à son admission en France.
C'est incroyable.
Il est allé en appel, et en appel, il a gagné. Finalement, il a eu son permis de séjour.
Oui, et il faut rappeler aussi, il y a quelques semaines, quand il y avait eu une attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, c'était un ressortissant pakistanais, si je me trompe pas.
Absolument,
donc, il y a aussi un problème.
Admis, parce qu'il était mineur, il avait dit qu'il n'avait pas 18 ans, alors qu'on s'est aperçu qu'il avait 25 ans au moment de l'attentat. donc, voilà, il avait
menti. Il faut faire le ménage.
Oui, mais... Tout le monde sait que demandez à n'importe qui, c'est vrai au Canada, c'est vrai en France, c'est vrai partout, demandez à n'importe qui est familier avec toutes les procédures concernant les réfugiés, les gens vont vous dire, 80% des gens mentent. C'est-à-dire que le statut de réfugié, c'est une espèce de porte d'entrée pour une immigration économique qu'on peut soutenir ou qu'on peut refuser, mais c'est une porte d'entrée un prétexte qu'on utilise pour une migration économique, et la plupart de ces gens-là mentent, on n'arrive pas à vérifier les informations, et finalement, grosso modo, le pays en accepte la moitié, 60%, et donc c'est une énorme porte d'entrée pour l'immigration dans le fond illégal. Et on a vu le ministre aussi parler de fermer une mosquée. On va fermer pendant 6 mois la mosquée de Pantin. C'est tout près de chez moi.
Parce qu'ils avaient diffusé la vidéo du père qui appelait, en fait, qui a carrément lancé une fatwa contre Samuel Paty, en fait. Et la mosquée a diffusé cette vidéo-là où le père vraiment traitait d'abord l'enseignant Samuel Paty de voyou. Et encourageait à mots couverts les gens à aller se faire justice eux-mêmes, en fait. Il y a une mosquée qui a trouvé bon de diffuser cette vidéo-là.
Oui, absolument. Mais je suis certain qu'elle est probablement pas la seule. Et cette vidéo a été extrêmement diffusée en France. Mm-hmm. Ceci dit, je ne sais pas si le contenu de la vidéo passerait l'épreuve des tribunaux, parce que il n'y a pas formellement d'appel à la violence. Il traite de voyou. Il dit qu'il faut se débarrasser de. Il faut qu'il n'enseigne plus. Bon, c'est une vidéo qui est pas très sympathique. Mais est-ce que ça passerait l'épreuve des tribunaux? C'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de mm-hmm. ces mesures-là. Si on veut vraiment les appliquer, il va falloir être extrêmement déterminé. Et comme je vous dis, il va falloir être déterminé, mais il va falloir accepter de se faire des ennemis, parce que toutes les organisations de défense des immigrants vont être sur votre dos. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme vont être sur votre dos.
Et ils vont crier à l'islamophobie.
C'est l'Europe même qui va être sur votre dos, parce que l'Europe est imbue de cette idée que les droits sont supérieurs à tout et qu'on ne peut pas faire un compromis sur ces questions-là et qu'on ne peut pas appliquer une politique véritable de là-dessus. Et ça va être très, très, très difficile. Et je dirais que c'est là-dessus un peu que les Français sont sceptiques. Et je pense qu'ils sont contents de voir qu'un gouvernement enfin se réveille. Hein. Vous savez, il y avait un rapport, le rapport Aubin, qui avait été produit en 2004. Sur l'islamisation à l'école. Hein, à l'école, raconter tout ce qu'on racontait en 2004.
Puis aussi, Christian, je suis sûre que vous vous souvenez aussi de ce collectif qui avait publié un livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », où on parlait exactement de ça. Et le rapport Aubin dont vous parlez, juste pour les gens qui nous écoutent, une des choses qui ressortait de ce rapport-là, c'est que on racontait que dans les écoles, il y avait des élèves qui... tenait des propos antisémites, homophobes, sexistes, et très souvent, c'est plate à dire, mais des étudiants originaires du Maghreb.
Oui, absolument. Et les professeurs ont de plus en plus. Écoutez, ça a commencé en 2004. Aujourd'hui, c'est massif. Moi, j'ai parlé à des enseignants qui disent, vous savez, si ça continue comme ça, nous, on n'en parlera plus du Coran, on parlera plus de l'islam dans nos cours. Or, c'est dans le programme, c'est dans le programme d'histoire, c'est dans le programme d'éducation morale et civique, où il faut parler de la laïcité, il faut parler des religions présentes en France, il faut parler en histoire.
Mais c'est très grave ce que vous dites.
Et toutes ces questions-là, les enseignants le disent. Écoutez, nous, on veut parler de ça, mais il faut qu'on soit soutenu, il faut qu'on soit certain qu'on est soutenu par l'État. Et les enseignants attendent, en tout cas, un signe, attendent véritablement un soutien qu'ils n'ont pas vu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est à un tournant? Peut-être, mais comme je vous dis, vous allez voir, dans quelques jours, là on est sur le coup de l'émotion, mais dans quelques jours, les attaques d'islamophobie, ça va fuser de partout. Vous allez traiter de racistes, tout simplement, parce qu'ils veulent faire respecter les lois sur les réfugiés, parce qu'ils veulent faire respecter dans l'école le droit, la possibilité pour un professeur de faire un cours sur la liberté d'expression, comme le faisait ce professeur assassiné. Et c'est sur le long terme que tout ça va pouvoir se juger et va être très difficile.
Oui. Alors, écoutez, ça va être très important aussi au cours des prochains jours, qu'il y ait des musulmans modérés en France qui dénoncent l'attentat de vendredi et qui dénoncent la montée de l'islamisme. Mmh. Et je ne sais pas si vous avez vu passer cet imam de Drancy qui a fait des déclarations très émotives. J'aimerais ça qu'on en écoute un petit extrait, parce que ce qu'il a à dire est extrêmement important, et le message qu'il envoie en fait depuis des années sur la montée de l'islamisme est très important. On l'écoute.
Ils font une prière pour le professeur Samuel. Une prière pour lui, une prière pour la République. Moi, j'ai l'honneur de recevoir Charlie, les équipes de Charlie, les journalistes, dans mon mosquée. Il faut le recevoir. Il faut donner à nos enfants. Il faut pas céder aux islamistes, à la peur. Parce qu'il y a un moment, 2010, quand je dénonce les islamistes, souvent ils m'ont dit arrêtez de déranger. Je dérange. Et nous, les modérés, on dérange. Mais c'est les islamistes qui nous dérangent. On veut vivre en paix. On veut tendre la main aux juifs, aux chrétiens, aux laïcs. On peut avoir des accords, on peut avoir quoi? Le dessin par le dessin, oui, je peux être en désaccord, l'art par l'art, La photo par une photo, il n'exprime mais pas la haine. Il faut soutenir Charlie, il faut soutenir toute la presse libre et indépendante avec toute force. Sinon, malheureusement, si la liberté elle part, qu'est-ce qui reste dans cette...
Alors, il s'appelle Hassan Chalgoumi et il a donné beaucoup d'entrevues en France au cours des 24 dernières heures. C'est important qu'il y ait des Hassan Chalgoumi en France.
C'est extrêmement important, mais il faut savoir que l'imam Chalgoumi vit depuis 10 ans sous protection policière. C'est un homme extrêmement courageux qui était intervenu au moment de Charlie, au moment du Bataclan. C'est quelqu'un qui a construit des ponts avec la communauté juive, la communauté israélienne, et il a reçu, vous savez pas combien, de menaces de mort. Je vous dis aujourd'hui, l'imam Chalgoumi vit sous protection policière. C'est quelqu'un dont on avait entendu parler au moment des événements de Charlie. Après, on n'en a plus beaucoup entendu parler. On avait un peu l'impression qu'il était disparu de la carte. Là, il revient. Il revient notamment parce que, vous savez, l'autre islamiste qui a enregistré une vidéo aussi, qui est allé soutenir ce père qui protestait contre le cours de d'éducation à la liberté religieuse, à la liberté de parole. Eh bien, Abraham Sefroui, c'est quelqu'un qui avait fait une cabale contre Chalgoumi, qui lui avait lancé des menaces, qui l'avait harcelé. Vous savez, on est à Chanteloup, là où s'est produit l'attentat, on est à
Conflans-Sainte-Honorine.
Oui, à Conflans-Sainte-Honorine, à 2 pas de la garderie Babylou. Rappelez-vous de la garderie.
Oui, tout à fait. Rappelez-nous.
Mais c'est une garderie qui a été où on avait la directrice avait sanctionné une employée qui était revenue d'un congé de maternité tout à coup en portant le voile, parce que la garderie depuis toujours s'était déclarée laïque et considérait qu'il fallait pas exposer les enfants à des signes religieux. Elle est allée devant les tribunaux, elle a gagné, elle a perdu, finalement la garderie a gagné, mais au bout de tout ce processus, elle était tellement fatiguée qu'elle a déménagé.
Absolument.
Mais cette garderie, elle disait qu'elle vivait dans un milieu impossible. Ils n'arrivaient plus à défendre l'idée de la laïcité dans un milieu qui était totalement gangréné par l'islamisme. Mais ça, c'est à 2 pas de là où s'est produit l'attentat. Ouais. Et donc, vous voyez,
c'est très important.
C'est tout un milieu qui est tissé, et l'imam Chalgoumi parle, il est extrêmement courageux de parler. Vous savez pas ce que risque cet homme-là, en s'exprimant comme ça, et en notamment en construisant des ponts avec les autres communautés, et en particulier les juifs qui, je le répète, quittent tous ces quartiers-là depuis 20 ans. Dans tous ces quartiers-là, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y avait plein de communautés juives qui vivaient partout, qui vivaient en paix normalement avec les gens. Aujourd'hui, ils sont tous partis, soit ils retournent en Israël, soit ils déménagent, ils vont dans d'autres quartiers. Mais je vous dis, ça va être un combat très difficile, très long, et c'est pas un combat pour les gens qui veulent se faire aimer des médias et de... voilà, on peut se choquer avec des amis, avec ses amis.
Oui, c'est ça. Écoutez, pendant qu'on se parle, Christian, il y a une nouvelle qui a été sortie par une chaîne d'information française. Bon, évidemment, c'est encore un petit peu tôt, mais le père de famille, auteur de cette fameuse vidéo, semble-t-il qu'il aurait échangé via la messagerie WhatsApp dans les jours précédant l'attentat avec le terroriste présumé, donc celui qui aurait égorgé Samuel Paty. Donc là, quand même, parce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, c'est dans sa vidéo, il dit pas carrément prenez un couteau puis allez égorger Samuel Paty. Mais quand on apprend qu'il aurait été en contact avec celui qui allait passer à l'acte, ça donne froid dans le dos. Et vous nous disiez tout à l'heure, Christian, que vous avez parlé à des professeurs. Écoutez, est-ce qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui en France enseigner tout? Parce qu'il y a des professeurs qui disent aussi que enseigner l'Holocauste, c'est difficile. Enseigner la théorie de Darwin, c'est difficile. Enseigner le droit à l'avortement, la contraception, c'est difficile. Donc, c'est tous les aspects du travail d'un enseignant qui sont mis à mal parce qu'il y a des étudiants qui se font laver le cerveau pour des raisons religieuses, là.
Oui, absolument. Vous savez, il y a un professeur que j'ai interviewé, professeur justement d'histoire géo, à peu près au même niveau là que celui qui est décédé vendredi, oui, en quatrième, c'est ça, qui nous disait, vous savez, la France, c'est un pays particulier, c'est un pays qui est très, très attaché, je dirais, à ce qu'on respecte la sphère publique, à ce que la religion n'interfère pas dans la sphère publique. Il y a une liberté religieuse en France et ça a pris... mais les sphères religieuses et les sphères publiques sont bien délimitées, c'est-à-dire que la sphère religieuse n'empiète pas sur la sphère publique. Et ça a pris 150 ans pour faire... Et on fait ça en France et c'est un acquis aujourd'hui pour tous les Français. Et vraiment, c'est un pays où tout ça se passait magnifiquement. Or, aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle religion qui ne comprend pas cette séparation-là, qui ne comprend pas cette séparation des sphères publiques et des sphères religieuses.
On va devoir se quitter là-dessus, Christian. Oui.
Et est-ce qu'on va faire une exception pour l'islam alors que toutes les autres religions se conforment à ça?
Voilà. Mais c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on va faire une exception pour cette religion-là alors que tous les autres religions ont compris cette séparation entre l'État et la religion. Christian, absolument passionnant, mais vous avez tout à fait raison. Ouais. Les prochains jours, va falloir que le gouvernement français se tienne debout face au reste de l'Europe et ils vont se faire traiter de tous les noms. Mais écoutez, ça fait des années qu'on dénonce ça, cette montée de l'islamisme en France et je pense que ça, c'est triste à dire, mais ça a pris l'événement de vendredi dernier pour que les gens vraiment ouvrent les yeux. Merci beaucoup, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Merci. Et collaborateur à Cube Radio. À mardi prochain. Merci beaucoup, Christian.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
L'histoire de cette professeure de l'Université d'Ottawa qui a été suspendue pour avoir prononcé le mot anglais qui commence par un N et qui est la traduction anglaise du mot nègre en français qu'elle a utilisé dans un contexte historique, dans un contexte sociologique pour expliquer une notion sociologique à ses étudiants. Cette histoire-là continue de faire des vagues. Il y a un groupe de professeurs, 34 professeurs de l'Université d'Ottawa qui ont signé une lettre en appui à cette professeure et depuis ce temps-là, ces professeurs sont la cible vraiment d'attaques assez violentes de la part d'étudiants de l'Université d'Ottawa. On va parler avec un des signataires de la lettre, Pierre Anctil, qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa. Monsieur Anctil, bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Monsieur Anctil, qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse lettre où vous avez pris la défense de la professeure lieutenant Duval?
Ben, contrairement à ce qui est affirmé par certaines personnes, la lettre commençait par dénoncer le racisme, dont sont victimes les minorités, et, entre guillemets, qu'il faut dénoncer, on le disait clairement. Deuxièmement, on avançait la question du rôle de l'enseignement universitaire, et de l'importance de maintenir un esprit critique et donc de défendre la liberté académique. Donc, il y avait les deux volets dans notre lettre. Avec la liberté académique, une question fondamentale, mais en deuxième lieu.
Oui, mais c'est important que vous disiez et que vous rappeliez que votre lettre dénonçait le racisme, parce que l'association, absolument, c'est très important, parce que l'association étudiante de l'Université d'Ottawa, de même que plein de gens qui commandent votre lettre, vous traitent de raciste. C'est quand même assez hallucinant. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui ont manifestement pas compris la teneur de votre lettre?
Ben, le problème qu'on rencontre souvent dans des milieux bilingues, comme l'Université d'Ottawa, c'est que les documents en français ne sont pas lus par des gens qui comprennent le français ou qui ont la compétence pour lire des questions plus fines. Alors, on nous accuse, en effet, de même, dans certains cas, d'avoir tenu des propos racistes. Il n'y a absolument pas question de ça. Ce qu'on a défendu avant tout, ce qui nous a vraiment préoccupés, ce qui était vraiment le souci des professeurs qui ont signé, c'était la liberté académique, de voir une collègue suspendue par l'université, pénalisée au début de sa carrière. On a compris ensuite, tout le monde comprend, que c'est à l'occasion d'un cours où on a mentionné l'oppression des Noirs américains, l'esclavage et autres événements marquants de l'histoire que le professeur a voulu aborder d'une manière raisonnable, d'une manière pédagogique. Donc, pour nous, en premier, vraiment, dans tout ce débat, je pense que c'est ce qui ressort actuellement au mm-hmm. Québec, c'est la question de la liberté. En fait, que les universités sont pas des lieux pour défendre des positions corporatistes ou pour répondre à des clientèles précises. On n'est pas au service de corporations, d'entreprises nécessairement. On a le droit aussi de penser par nous-mêmes, de défendre des positions importantes sur le plan de la liberté et de la vie politique.
Alors, je veux lire un extrait d'une déclaration de l'Association étudiante de l'Université d'Ottawa. « Nous sommes profondément troublés par une lettre ouverte signée par un groupe de 30 professeurs de l'Université d'Ottawa défendant l'utilisation d'insultes racistes dans les salles de classe. » Bien que ces individus et ces groupes restent, ouais, je le sais. Bien que ces individus et ces groupes restent souvent silencieux lorsqu'on leur demande d'exprimer leur soutien à leurs étudiants BIPOC, c'est-à-dire noirs, autochtones et personnes de couleur, ils ont trouvé leur voie pour défendre l'utilisation d'une insulte raciale tout en ignorant la grande majorité du désaccord de la communauté noire de l'Université d'Ottawa. C'est tout simplement inacceptable. En anglais, ils ont utilisé le mot appalling, qui est encore plus fort que inacceptable. Ouais. Donc, même dans la version française de leur texte, ils continuent à dire que vous avez, finalement, que vous approuvez les insultes racistes.
Oui. Alors, on espère que la raison va prévaloir. Vous savez, quand on est en classe, on enseigne, on a devant nous des jeunes adultes qui sont intéressés à la discussion. Moi, j'accueillerais cette position de la part d'un individu qui viendrait dans ma classe et qui dirait, écoutez, pour moi, ce mot que on ne peut pas prononcer, ce mot, eh bien, pour moi, c'est une souffrance, une insulte, c'est une situation qui me met mal à l'aise et m'opprime. Alors, je serais heureux d'entendre cette position dans une classe et de, donc, discuter de ça. C'est une position qui est raisonnable. D'ailleurs, notre lettre ne visait pas les étudiants, du tout, du tout. Mm-hmm. Moi, je regrette personnellement que les étudiants comprennent pas, dans certains cas, dans le cas de certains étudiants, comprennent pas le processus pédagogique. Le processus, c'est d'amener des opinions, de les discuter, d'éclairer ce qu'on ressent aujourd'hui à travers l'histoire. Alors, il faut parler de l'esclavage, il faut parler de tout le mécanisme d'oppression, bon, etc., etc. Et là, on arrive à trouver un point juste, à trouver un équilibre. On n'est pas toujours d'accord, on peut continuer de diverger, mais au moins, on a mis sur la table d'une manière raisonnable, équilibrée, patiente, respectueuse, tout un tas de données. C'est ça, la méthode pédagogique. Mm-hmm. Et nous, on y tient beaucoup, et c'est ça, la liberté académique, c'est la liberté de faire ce processus avec des jeunes adultes qui vont venir discuter dans un cadre positif, à l'abri de toutes sortes d'idéologie ou de forme de militantisme. Mmh. Évidemment, l'université, c'est pas un endroit où on veut voir arriver des gens qui ont des opinions toutes faites et puis qui défendent des points de vue idéologiques durs. Et malheureusement, il y en a beaucoup dans la société de ça, on le sait, dans toutes sortes de causes, de domaines, on peut juste penser aux conspirationnistes. Alors, on refuse ça, on dit non, parlons-en, assoyons-nous ensemble, discutons. Alors, on trouve malheureux, en fait, ce positionnement. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de l'équation. Il y a des gens dans l'environnement qui sont heurtés. Il faut le reconnaître.
Oui, mais en même temps, Monsieur Antier, je vous trouve très, très, très calme et très bienveillant, parce que l'association étudiante, là, ils vont encore plus loin. Ils se sont adressés au recteur, Monsieur Frémont, en demandant qu'il y ait des conséquences sur vous, en demandant que vous soyez, que les signataires de la lettre soient dénoncés par l'université et qu'il y ait des punitions, des conséquences pour vous. C'est très grave ce qu'ils demandent, là, l'association étudiante.
On comprend très bien qu'après ce qui vient de se passer, après le tollé soulevé par le geste de l'université de congédier une chargée de cours au début de sa carrière, on comprend que l'université va reculer, ne choisira pas cette voie, de s'en prendre à des professeurs titulaires, des professeurs qui ont une longue expérience, qui ont publié, qui font la fierté de l'université, après tout.
Donc, vous n'avez pas peur.
Donc, Ben, écoutez, on connaît les équilibres en jeu. On sait très bien que la liberté académique, et le recteur l'a dit hier matin, noir sur blanc dans sa communication, c'est le fondement de l'université. C'est tout. Alors, on est d'accord avec le recteur, et le recteur est d'accord avec nous, fondamentalement. Le reste, ça fait partie de l'environnement universitaire qui permet ce genre de débordement. Moi, je prends toujours une position pédagogique. C'est une position, je dirais, patiente de dire, bon, voici la situation, discutons-en, essayons de comprendre mieux, essayons d'avoir des bases rationnelles, scientifiques et éclairées. Alors, je souhaite pas condamner de manière brutale l'association étudiante, bon, qui représente un certain nombre d'étudiants, de toute évidence, et c'est très clair dans notre esprit que l'université, a parfois manqué à ses obligations en ne dénonçant pas, dans le passé récent, certains actes perçus comme racistes. Alors, c'est souvent arrivé. Alors, nous, on est d'accord pour dénoncer le racisme, mais on est d'accord pour ouvrir un dialogue. Je pense que là, on est dans un moment, vous savez ce que c'est, les campagnes de presse, bon, tout le monde s'exprime, oui. Puis tout le monde s'oppose. Après, il va y avoir une position, bon, ça va dérougir, et puis bon, on va s'asseoir, puis on pourra avoir des discussions plus calmes avec les étudiants qui ne pensent pas comme nous. Et on pourra lire la lettre en anglais, et on pourra discuter. C'est la seule voie, c'est la seule position à prendre, c'est d'ailleurs la position que l'université a prise dans ce débat-là.
Ouais. Malheureusement, quand même,
il aurait fallu le faire plus tôt. Il aurait été mieux de ne pas congédier la jeune professeure et de respecter sa liberté, puis de réunir étudiants et professeurs, puis d'en discuter. Malheureusement, l'université a pris une voie trop brutale de congédier sans discussion un professeur qui exerçait sa liberté d'opinion. C'est pour ça, d'ailleurs, que les professeurs québécois sont outrés, parce que c'est un enjeu ici aussi au Québec.
Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est Marc-François Bernier, professeur également à l'Université d'Ottawa, il a écrit il y a quelques heures sur Twitter, il a écrit « On me rapporte ceci, des centaines et des centaines de personnes réclament la tête avec un langage très violent des 34 signataires. Il y a un appel à vandaliser les bureaux des profs et à boycotter les cours des fucking francophones. »
Oui, oui, on a même utilisé le terme fraud. Alors, c'est très malheureux que on refuse, de la part de certaines personnes, je sais que c'est pas tous les étudiants, et loin de là, mais on refuse de la part de certaines personnes, évidemment, que le racisme se produise sur le campus de l'Université d'Ottawa, et à juste titre, c'est tout à fait normal que cibler les Noirs ou d'autres minorités. Mais certaines personnes ne se gênent pas pour cibler les Canadiens français, les francophones et les professeurs, et avec des propos violents. Ça, c'est condamnable et c'est très déplorable et c'est inacceptable. J'espère que l'université va prendre des moyens pour faire cesser ça, si c'est possible. Nous, c'est pas ce qu'on souhaitait. On souhaitait une discussion posée et une reprise, en fait, de toute cette question à travers un éclairage historique et équilibré. Ce que tout le monde souhaite, en fait, et non pas monter dans les rideaux en utilisant des termes aussi insultants que celui qui est dénoncé.
C'est quand même hallucinant.
On se comprend.
Mais quand on dit qu'il y a des étudiants qui appellent à vandaliser le bureau des profs, boycotter leurs cours, est-ce que vous en avez été victime de ça? Bon, je sais que peut-être que vous faites plus juste de l'enseignement à distance pour l'instant, donc...
Oui, pour l'instant, depuis quelques mois. Là. Non, j'ai jamais, dans toutes sortes de cours que j'ai donnés, et Dieu sait que j'ai donné des cours dans des questions difficiles et exigeantes, et où est-ce que les étudiants sont susceptibles de diverger d'opinion fortement. J'ai jamais rencontré ce genre de propos. C'est totalement anti-universitaire et c'est totalement inacceptable dans l'espace social, tout court. Alors, on le regrette beaucoup. Moi, je le regrette. Et c'est à travers ça que je relance une invitation à tout le monde, en fait, à maintenir des propos posés et à en arriver dans le milieu universitaire à des discussions. Assoyons-nous, parlons-en. Vous avez vu tous les arguments qui ont été amenés. Franz Fanon, et puis Léopold Senghor, et puis
Daniela Ferrière.
Un tas d'usages, Daniela Ferrière, de ce mot en français. Il y a aussi le problème qu'en français et en anglais, le mot n'a pas la même résonance. Alors, quand on écrit une lettre en français, on utilise des termes que les anglophones ont de la difficulté parfois, et surtout certains dans certains milieux, on a de la difficulté à décoder. Alors, on décode pas, vous vous rappelez, de l'incident qui avait touché Nigger Black,
la
chanson qui avait été...
Yvon Deschamps.
Yvon Deschamps, il y a quelques années. Vous vous rappelez de d'autres événements comme ça, où ce qui paraît banal en français, ou ce qui paraît tout simplement une discussion ou une mise en scène apparaît comme une insulte dans d'autres contextes. Alors, là, on a vraiment un problème de devoir en parler de manière raisonnable dans le milieu universitaire, et c'est pas les invectives qui vont régler la question, de part et d'autre.
J'ai fait une entrevue, en fait, chaque semaine, Joseph Facal, qui est professeur au HEC et qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Bon, vous connaissez Joseph. Je lui ai parlé la semaine dernière et il me disait, il voulait pas le nommer, qu'il y avait un ami à lui qui avait pris une retraite anticipée de sa carrière d'enseignant à l'Université d'Ottawa parce qu'il disait que l'atmosphère était invivable, cette atmosphère de surveillance, de délation, qu'on pouvait plus rien dire et tout ça. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez à l'Université d'Ottawa?
Ben, moi, j'ai jamais... chaque expérience est personnelle et moi, j'ai jamais ressenti de façon que ce soit des pressions pour dire certaines choses. Vous savez, même en études canadiennes, hein, il y a beaucoup...
Ou ne pas en dire. Pas... Ouais, c'est plutôt ne pas en dire.
Pas
oui. Jamais.
Résidentiel, moi, je n'ai pas ressenti ça. Mais McDonald's, la statue vient d'être détruite. Pas quand même rien, c'était quand même un enjeu qui bouge les énergies de plusieurs personnes, ni des questions de racisme, d'antisémitisme. J'ai toujours pu m'exprimer librement dans ma classe, j'ai jamais retenu pour discuter d'un enjeu, et mes étudiants ont bien compris ma position. Ils étaient libres de me demander de me réorienter, ils étaient libres de discuter entre eux, etc. Ce qui se passe actuellement, c'est malheureux, c'est anti-académique, anti-universitaire, et ça découle du geste malheureux d'avoir congédié sans discussion, sans consultation, une enseignante, un professeur. Et ensuite, l'université est revenue sur ses pas. Puis, elle a...
Le mal était
fait. Oui, c'est ça. Voilà.
Est-ce que vous la connaissez, Madame Lieutenant Duval? Est-ce que vous lui avez parlé?
Non, je ne connais pas personnellement. Non plus, non. Nous, les professeurs, on voulait défendre le point de vue général de la liberté.
Voilà, le principe.
Oui, on comprend que cette jeune professeure n'a peut-être pas envie actuellement d'entrer dans la ronde médiatique, n'a peut-être pas envie non plus de discuter, peut-être souhaite se concentrer sur son enseignement et puis sur sa carrière, et je trouve ça tout à fait raisonnable. Nous, on comme professeurs plus expérimentés, les trentaines qui ont signé, c'est des professeurs qui ont des longues carrières, on a senti le besoin de sonner l'alarme, on l'a fait dans le respect de la position de tout le monde, parce qu'on trouvait la décision inacceptable. Heureusement, la décision a été renversée, et le recteur s'est rendu à nos arguments dans une déclaration hier soir. Hier matin.
Hier matin. Pierre Anquetil, merci beaucoup.
Non, j'ai jamais senti un climat. Ouais. Non, jamais. Merci, bon, ça m'a fait plaisir.
Écoutez, c'est la seule bonne nouvelle dans toute cette histoire-là. Pierre Anquetil, vous êtes professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa et vous êtes un des 34 signataires de cette lettre qui n'est pas du tout une déclaration raciste, bien au contraire. Au contraire, c'est vraiment assez particulier que vous écriviez une lettre pour dénoncer le racisme et que vous fassiez à votre tour accusé de racisme. C'est vraiment le monde à l'envers. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
C'est un plaisir. Au revoir.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
J'ai beaucoup pensé à vous pendant les dernières semaines. J'ai choisi de prendre un moment aujourd'hui parce que je trouve important de vous partager où j'en suis rendue. C'est pas moi qui dis ça, Sophie Durocher, c'est Marie-Pierre Morin qui a écrit ça sur Instagram hier, donc la première fois qu'elle brisait le silence depuis que elle a disparu complètement de la scène publique après des accusations de harcèlement de la part de Safia Nolin. Les accusations qui émanaient de Safia Nolin, hein, pour être bien clair, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Ce mea culpa sur la place publique, on va en parler avec Bernard Motulski, il est titulaire de la chaire des relations publiques et communication marketing de l'UQAM et professeur de communication. Monsieur Motulski, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est pas la première fois qu'un artiste ou une personnalité publique qui a vraiment vécu une descente aux enfers essaye d'obtenir une rédemption en montrant patte blanche, en disant « je travaille sur moi ». Est-ce que c'est une stratégie gagnante, M. Motulski?
Ben, je dirais que c'est à la hauteur de la faute, hein, de parler de rédemption.
Oui.
Il y a une gradation selon ce que l'on a fait. Alors, plus c'est grave, plus le chemin de rédemption est long. Je dirais, c'est un peu comme, vous savez, quand vous payez votre dette à la société, vous allez en prison parce que vous avez commis un crime. Quand vous sortez, vous considérez que vous avez payé votre dette et normalement, vous pouvez réintégrer et reprendre une vie quasiment normal. Alors oui, c'est la chose à faire. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de manuel qui peut vous dire combien de temps il faut que vous arrêtiez, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez comme thérapie ou traitement. Donc, chaque cas est vraiment particulier. Et dans le cas de Marie-Pierre Morin, il y avait, un gros contraste entre l'image parfaite qu'elle présentait, d'une femme parfaite dans tous les domaines, et un comportement, on va dire, au moins grossier et
déplacé.
Suffisamment déplacé pour qu'elle décide elle-même que là, il fallait qu'elle sortir, il fallait qu'elle repense à sa façon d'être.
Mais ce serait quoi la prochaine étape, mettons, pour Marie-Pierre Morin? Parce que je regarde Joël Legendre, puis évidemment, c'est toujours un jeu dangereux d'essayer de comparer des problèmes auxquels on fait face des personnalités publiques. Joël Legendre s'était exposé dans un parc, il avait été donc reçu une contravention de la police pour une sorte d'exhibition d'indécence sur la place publique. Il s'est retiré pendant un bon moment, puis après, il est allé donner une entrevue. Il a sorti les Kleenex, il a pleuré, disant j'ai travaillé sur moi. Est-ce que c'est ça qu'elle doit faire, Marie-Pierre Morin, dans un mois ou deux, se trouver une émission à la télé, sortir la boîte de Kleenex et pleurer pour montrer qu'elle regrette son geste?
Ben là encore, c'est pas forcément écrit dans le livre. Oui, il faut effectivement qu'on puisse voir que la personne a changé, qu'elle a fait son propre diagnostic et qu'elle va pouvoir recommencer. De quelle façon? Est-ce que c'est par une entrevue? Est-ce que c'est par une vidéo? Est-ce que c'est par une note? Dans combien de temps? Là encore, c'est variable. Moi, je pense toujours, les gens qui nous écoutent, il y en a qui s'en souviennent sans doute pas, mais il y en a qui s'en souviennent, Claude Charron.
Oui, qui a été tout à fait. Qui avait volé un veston.
Oui, ouais. Mais à l'époque, il était un ministre important du gouvernement Lévesque. Donc, il avait chapardé une veste chez Eaton, je pense.
Ouais.
Il a démissionné et là, il y a eu une traversée du désert pendant plusieurs années avant qu'il revienne. Mais finalement, quand il est revenu, il a écrit un livre et il est devenu un des animateurs préférés des Québécois.
Absolument.
Pendant de nombreuses
Absolument.
Années. Alors, tout le monde avait accepter son cheminement, qu'il n'avait pas forcément fait en public, mais il avait pris pas mal de temps. Alors, dans le cas de Marie-Pierre Morin, ce qui est frappant quand on regarde son post sur Instagram hier, c'est pas tant le post que les commentaires. Quand j'ai regardé hier, il y avait à peu près pas loin de 4000 commentaires. Elle a 500 000 personnes qui sont abonnées à son compte, donc ça n'a quand même pas été une avalanche, mais les commentaires qu'on voyait, c'était à peu près tous « on est content d'avoir
positif,
de tes nouvelles, lâche pas ». Donc ça aussi, et c'est ce que les médias sociaux nous permettent de faire, ça permet de prendre la température de l'eau. Là, elle peut évaluer son premier geste, hein, dans lequel, vous savez, vous ouvrez la porte, puis vous passez la tête dehors, puis là, vous regardez.
Voilà. Quel genre de seau vous tombe sur la tête? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un seau d'eau, un seau de caca ou un seau de...
Et là, c'est très... Ou un bouquet de roses qui vous arrive. Et ça, ça vous permet de mesurer l'étape suivante et progressive.
Mais ce que je trouve très intéressant aussi, si je peux me permettre, Monsieur Motulski, c'est que je suis en effet j'ai devant mon écran d'ordinateur la page de Marie-Pierre et à droite évidemment la réaction des gens. Et ce qui est intéressant, c'est il y a évidemment Monsieur, Madame, tout le monde qui envoie des petits cœurs et tout ça. Puis il y a des gens connus, hein. Il y a Julie Dupage, Alex Perron. Donc elle est passée Marie-Pierre Morin au moment des faits ou le moment où c'est sorti. De personnes radioactives, les diffuseurs se sont dissociés d'elle, on a même retiré des ondes des émissions où elle avait participé, les commanditaires ont fui, et là, aujourd'hui, Alex Perron lui envoie des petits cœurs sur Instagram, c'est quand même un 180 degrés, là.
Oui, mais en même temps, quand elle a décidé de se retirer et les réactions, quand elle a perdu à peu près tout ce qu'elle avait, il y a eu des commentaires aussi que c'était peut-être beaucoup par rapport à la faute.
J'ai écrit une chronique là-dessus. Oui, tout à fait.
Donc, oui.
C'était démesuré. Oui.
Et je pense que ça a été partagé par un certain nombre de personnes. Alors, c'est toujours l'échange entre ce que vous avez fait et la sanction. On parlait de Joël Legendre tout à l'heure.
Oui.
Bon, il n'avait pas touché à quelqu'un, il n'avait pas agressé quelqu'un de façon violente ou physique. Donc, c'est sûr que c'était un geste déplacé et un geste qui traduisait aussi un comportement déviant, on va dire.
Ouais.
Mais je pense à d'autres, Éric Salvaille, Gilbert Rozon, les faits reprochés, le pire de tous.
Ah, c'est beaucoup plus grave, bien sûr.
Oui, puis aux États-Unis, Weinberg. Weinstein, pardon. Lui, il sortira pas de prison, puis il n'y a pas de rédemption possible dans son cas.
Non, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aussi, quelqu'un qui a commis un geste criminel, quelqu'un qui a aussi été retrouvé coupable devant une cour de justice, qui a été condamné en bonne et due forme. Donc, pour l'instant, on va attendre aussi que Gilbert Rozon ait été déclaré coupable ou pas. Et dans le cas d'Éric Salvaille aussi, on va attendre que justice suive son cours. Mais je veux juste revenir sur quelque chose par rapport à Marie-Pierre Morin. J'ai l'impression aussi que, parce que vous faisiez un parallèle avec l'affaire Claude Charron, quand on regarde ces vedettes-là aller, les gestes qu'ils ont posés nous paraissent tellement énormes qu'on peut pas s'empêcher de se dire c'est un acte manqué. C'est comme un appel à l'aide. Tu sais, quand Claude Charron s'en va chez Eaton et vole un veston alors qu'il est qu'il siège au gouvernement, c'est le geste est tellement énorme qu'on se dit c'est peut-être parce qu'il voulait, il était mal dans sa peau puis il voulait mettre fin à sa carrière. Dans le cas de Marie-Pierre Morin, allez-y.
Oui, je pense qu'il l'a mentionné, après. Il cherchait une façon aussi de sortir. Vous savez, être sur un piédestal, c'est difficile. Vous êtes une chroniqueuse qui est exposée aussi. Il y a un prix à payer pour ce vedettariat. Alors, quand vous avez des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vous suivent, qui vous observent tous les jours, à qui vous parlez, mais vous devez toujours faire attention. La pression peut parfois être tellement forte que ça peut amener à dire, j'ai envie de me lâcher, j'ai besoin de me lâcher. C'est ce que le diagnostic que les gens qui passent à travers ça vont faire, c'est le temps qu'ils prennent en introspection qui va permettre de voir si maintenant on leur permet de revenir. On pense ils ont guéri le bobo, mais il y avait un bobo, c'est clair. On n'a pas. Puis c'est ce que Marie-Pierre Morin avait dit quand elle s'est retirée, puis même ce qu'elle a dit encore hier.
Mm-hmm.
Elle
oui,
est consciente qu'elle doit travailler sur...
Sur elle.
Ses comportements, et ça, je pense que tout le monde, on peut pas ne pas être d'accord avec ça. Maintenant, ça va être de savoir combien de temps, ça va être quoi l'aboutissement, puis quel genre de papillon va ressortir de la métamorphose.
L'image du papillon. Et non, mais est une très bonne image parce que en effet, quand elle dit depuis quelques années, j'avais des habitudes de vie qui ne reflètent pas la personne que je veux être. Malgré moi, j'ai déçu des gens, ce que je regrette profondément. Bon, on rentrera pas dans les détails, mais je pense qu'il y avait en effet peut-être des dépendances, peut-être des en tout cas, je veux faire attention là, mais je veux dire, il y avait manifestement une hygiène de vie, disons, qui était peut-être pas exemplaire et sur lequel elle est manifestement en train de travailler. Ce qui est intéressant,
si vous permettez, il y a le personnage public aussi qui se montre, que l'on voit, puis souvent il y a un autre personnage plus réel qu'on peut côtoyer dans la vie, mais qui peut être de mauvaise humeur, qui peut être agressif avec les gens qui sont proches. Il y a toutes sortes de dimensions qui font en sorte que il faut s'assurer qu'il y a une correspondance entre le personnage qu'on veut montrer et puis le personnage qu'on dégage de façon auprès de son entourage ou de son intimité.
Ouais. Vous évalueriez, mettons, sur 20. Les chances que Marie-Pierre Morin, pas tout de suite évidemment, mais dans un certain temps, quand si elle fait de façon progressive, qu'elle montre vraiment qu'elle a travaillé sur elle, la capacité des Québécois à lui pardonner et la réintégrer dans le star system québécois, vous évaluez ses chances à combien sur 20?
Oh, je mettrais ça assez élevé, moi je mettrais plus que 15 sur 20. J'irais peut-être jusqu'à 18, parce que je pense que compte tenu de la faute, c'est une faute sur laquelle on peut travailler soi-même et que les gens peuvent finir par mettre de côté. Je pense que compte tenu de sa personnalité, de son rayonnement, de ses talents, à condition qu'elle fasse ça pas trop vite, de façon raisonnable et surtout... En faisant vraiment son chemin de croix public.
C'est ça, il faut que ce soit sincère là quand elle dit qu'elle s'excuse puis qu'elle est désolée puis que elle travaille sur elle, il faut qu'on sente, parce que c'est toujours ça hein qu'on demande de ces gens-là, une sincérité puis une authenticité. Je note quand même au moment où on se parle, ça a été aimé par 70 000 personnes. Il n'y a pas ces 70 000 qui ont commenté, mais il y a 70 000, c'est tellement facile aujourd'hui, hein, en un clic, on a juste à mettre un petit like en bas des posts sur Instagram, mais quand même, 70 000 en moins de 24 heures, c'est quand même imposant.
Et surtout, je ne sais pas si vous en avez vu, mais moi, hier, en regardant, je n'ai pas trouvé de commentaires agressifs ou négatifs, alors que souvent, sur les médias sociaux, c'est ce qu'on va voir. Les gens, s'ils sont fâchés, ils vont pas se gêner pour le dire.
Ouais. Non, il y a beaucoup de « sache que tu nous manques beaucoup », etc., etc. Donc, écoutez,
c'est un bon
18...
sondage. C'est un bon sondage.
18, oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas scientifique pour une scène, mais ça nous donne quand même une indication du cœur des Québécois. Ça a été passionnant de vous parler. Merci beaucoup, Bernard Motulski, donc titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, professeur de communication, qui réagissait donc à Marie-Pierre Morin, qui a brisé le silence hier. C'est vraiment un phénomène assez fascinant à observer. C'est sûr qu'avec les médias sociaux, on peut voir ça vraiment en direct, hein, la cote de popularité qui monte, qui descend. C'est pas scientifique du tout, mais ça nous permet quand même d'avoir une bonne idée. Et c'est comme ça que va se terminer l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio aujourd'hui et de le choisir. Vous êtes tellement nombreux. On vous adore. Ça fait 2 ans qu'on existe, Cube Radio. On adore ça, puis on vous adore, vous, les auditeurs, les auditrices. Merci, puis soyez au rendez-vous demain. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et Maude Boutet à la recherche. Une équipe en or, et on se retrouve demain.
Cube Radio.